Marion m'a dit Johnny faisait couper les cheveux. Je lui ai dit mamie, je n'en ai déjà presque plus. Avec lui elle qui a 20 ans de plus. On se dit qu'avec un de moins ça fait toujours un plus. Oh yeah. En tout cas on fait de la radio. Depuis que le surf me fait très mal au dos. On chante et on anime des chroniques qu'on joue pour comprendre toute la musique autour de nous. La séquence du spectacle pour l'auditeur. Faut mettre ses fréquences par ordinateur. Plus besoin de se suicider, on est déjà tous morts à en crever. Oh yeah. Tout devrait changer tout le temps, nous serait bien plus amusant. On avance à l'envers, on recule en marche arrière. J'étais fait mais loin devant, la vague russe avance au vent. Même si on se pose des questions, le monde tourne tout. Oh yeah.
Bargerus 1230. L'écoute. Je vous disais, j'avais trouvé un bouquin, l'anthologie L'écoute de l'Antiquité au 19e, jusqu'au 19e siècle. Donc là, je viens de l'introduction. Donc ça commence par. Donc là, on écoute un disque. Vous avez remarqué ? C'est quoi ? C'est Byron Westbrook Distortion U. H-U-E. Mais à la fin de la face A, c'est Heliocentricity. Ouais, ça tombe bien. Et donc là, je vais vous dire un petit passage de l'introduction qui commence ainsi. On a l'habitude de poser la civilisation grecque fondée sur la vision et la civilisation biblique, fondée sur l'écoute de la parole de Dieu. Écoute, eh bien, le premier mot de la prière juive tiré du Deutéronome 6:4-9 et à laquelle Jésus fait allusion dans l'évangile. Donc, je ne vais pas vous lire l'extrait, mais moi ce que j'en retire, eh bien, c'est que l'écoute des signes, et par rapport au côté invisible de ce que je développe dans mes émissions, donc l'écoute des signes autour de soi est selon myself, selon moi, Johnny Tierbeck, no baby, la parole de l'être suprême ou plutôt de la force métaphysique. C'est ça, c'est ce qui nous permet d'exister, cette force incroyable. C'est ça qu'il faut faire attention, c'est l'écoute des signes qu'elle nous propose. Des phénomènes inouïs même. Lire le chef-d'œuvre inconnu de Honoré de Balzac. Vous verrez, je vous m'en donnerai des nouvelles. Donc, et cette force métaphysique qui est installée en nous, qui intervient en nous et pour nous. C'est ça aussi, donc il faut faire. Donc, on n'y changera rien si on en prend conscience ou non. Mais le fait d'en prendre conscience, ça nous infléchira à procéder de façon différente et de façon plus polie, plus respectueuse envers nous-mêmes, pour les autres. Bon. Donc d'abord, dans cette grande anthologie, où j'ai pas tout lu, hein, vous imaginez. Il y a des études sur les fonctionnements de la musique, des musiques, fonctionnement des champs d'écoute, qui sont différents pour chacun et chaque lieu, jusqu'à, bon, il y a plein de trucs hein, qui sont abordés, jusqu'à, moi, ce que je me suis beaucoup intéressé à la philosophie au 19e siècle. Et c'est l'époque où l'homme a pris conscience de son existence. Ça, on l'avait vu avec Michel Foucault dans ses entretiens radiophoniques. Et la musique, comme on a déjà dit plusieurs fois dans les Bergerus, dans les chroniques actuelles, là, c'est la Bergerus qu'on écoute. Ouais, vous saviez pas? Mais si, c'est Johnny Tiefbeck, c'est moi qui anime les chroniques, la Bergerus. Et bien, la musique de l'humanité joue la musique qu'elle joue, c'est son reflet. Donc, quand on voit, par exemple, les musiques qui passent dans les radios commerciales, et ben voilà, ben c'est le reflet de l'humanité qui va être commerciale, de l'humanité qui va être soumise à la consommation, soumise au conditionnement, soumise au contrôle. Des trois cons, quoi. Voilà, ça va être là, vraiment, là, c'est parfait, là. C'est le... Mais tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr. Non. Bah non, heureusement. Parce que heureusement qu'on a le droit d'écouter la musique qu'on veut. Bah oui. Et là, on écoute la face B d'un disque que je n'ai encore jamais écouté. Stevie Wonder's Down to the Earth. To Earth. Qui est d'ailleurs le nom du morceau. Down to Earth. Par Stevie Wonder. Tout jeune le mec. J'ai jamais écouté, on me l'a filé. Bon, je sais pas quelle année c'est. Et il y a The Lonesome Road. Ah, oh, c'est un titre de... qui a été repris ou non. Mais de Junior Kimbrough. Kimbrough. Excellent. Bref, continuons notre émission de radio. Alors, j'ai mis des marque-pages un peu partout. Alors, on va aller dans l'ordre, ok? Avec un petit peu de café. Alors là, il y a dans le chapitre typologie des cadres et attitudes de l'écoute. Alors là, le chapitre, c'est l'autre. Si la rencontre musicale de l'altérité provoque chez les savants du Moyen-Âge, comme de la Renaissance, le rejet de la musique, parce qu'en fait, il disait que c'était de la barbarie, quoi. Compare les chants des Lombards au hurlement des loups, tu vois. Deux siècles plus tard, le chant des esclaves turcs, relaté, hein, ils disent que c'est de la barbarie. Mais, étrangement, il en va autrement pour les récits de voyage. Les textes regorgent d'émerveillement, préludes merveilleux et aux curiosités sonores, également à la découverte du nouveau monde. Et alors là, je vous le dis, je ne l'ai pas encore, mais il y a les musiques de Corto Maltese. J'ai tout fait pour l'avoir, là, je fais tout pour l'avoir, donc je réutiliserai ce livre lorsque je l'aurai. Ça a l'air génial. C'est des CD, qui font les musiques des aventures de Corto Maltese, quoi. Donc j'adore Corto Maltese, on verra ça plus tard. Donc voilà, ensuite. Donc on est toujours dans l'intro, là, hein. Ouais. Bon, ça, c'est pas très important. Musique et nature, ok. On va éviter Condorcet. Donc le deuxième, si vous entendez, c'est The Lonesome Road. Bon, ça ressemblera pas du tout à Kimbrough, de toute façon, c'est clair. Donc les chanteurs. Donc là, on est dans l'écoute des auditeurs. Les chanteurs ne doivent pas se tenir en cercle, car alors on n'entend pas les voix de façon égale. Oh, j'ai pris, ça rien, ça vous allez rien comprendre. Hein. Mais bon, les chanteurs, quand ils chantent, il ne faut pas qu'ils se mettent en cercle. Il faut qu'ils se mettent les uns à côté des autres. Et ça date du XVIIe siècle. Les mecs, ils bossaient, quoi, hein, tu vois. Déjà à l'époque, ils bossaient, hein. Moi, je pensais que c'était il n'y a pas longtemps qu'on réfléchissait, mais fait, ça a toujours été, quoi. La disposition prévue doit attendrir le cœur afin que la musique puisse mieux conserver son impact et sa force. Ensuite, l'écoute des philosophes. Alors, là, on est toujours au début, au XVIIe siècle. Certains effets extraordinaires de la musique étaient pour beaucoup, depuis l'Antiquité, considérés comme véritablement magiques. Les effets thérapeutiques de l'écoute. Et alors là, attention, j'ai annoté un truc. C'est rigolo ça. Attends, faut pas que je fasse n'importe quoi. Ah bon, c'est vrai. Voilà. Et là, on va aller direct. Alors, on arrive à la page 721. Normativité. Alors. À une époque où, dans le temps et l'espace, il ne régnait qu'un hymne à la gloire de l'univers. Je me permets d'avoir à noter. Eh bien, que la première chose que nous allons aborder à présent concerne donc la question suivante. Sous quelles conditions le compositeur peut-il éveiller des sensations ? Éveiller des sensations. Comment c'est possible ? Alors, avant d'aller plus loin, moi, là, aujourd'hui, ça va être possible par l'effet de masse. C'est absolument détourné. Revenons à l'origine, l'impact naturel de la musique, en revenant au recueil, au livre. Conditions de compositeur. Alors, sous quelles conditions le compositeur peut-il éveiller des sensations ? Même en faisant très peu attention à l'effet de l'art musical, on remarquera que l'exécution de certains morceaux n'en produit aucun, alors que d'autres enflamment la plupart des auditeurs. Alors ça, c'est la pop qui enflamme les auditeurs, la plupart des auditeurs, et l'autre, bah, c'est la plus intelligent ou vraiment nul, quoi. Vraiment mauvais, plutôt. Les causes de cette différence de leurs effets tiennent en partie à la manière de les exécuter et en partie aux auditeurs. Est-ce que les auditeurs sont bien lunés, est-ce qu'ils sont là pour écouter, ils ouvrent la tête à ça, ou non. Et aussi, si ça éveille leur oreille ou non. Ça a été vu préalablement dans l'anthologie. Et la manière de les exécuter. Tu vois, il y a des fois, il y a des mecs, ils jouent, t'as la version originale, et il va y avoir les reprises. Donc généralement, les reprises sont nulles, quoi. Sont moins bonne que l'original, généralement. Mais ça arrive qu'une interprétation, l'interprétation d'un morceau soit waouh, dépasse l'original. J'en parle parce que c'est à ce moment-là qu'il faut en parler, je pense. Donc ça, c'était à une époque où, dans le temps et l'espace, il ne régnait qu'un hymne à la gloire de l'univers. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Donc là, maintenant, un peu plus loin. Au XVIIIe siècle, les auditeurs, on le sait, n'aiment pas prendre la peine de charger leur oreille à rechercher, mais préfèrent se concentrer sur un seul chant principal et qui ressort. Ce qu'on peut chantonner tout le temps, c'est de là que ça vient aussi, peut-être. Donc avant de continuer, là on est toujours Lonesome Road, I guess. No, baby? No? Isn't that? What was that? It's Angel Baby. Oh, yes. Angel Baby, and after, yeah, in a few sec, you recognize it. Yes, you recognize it. Ooh. Angel, baby, don't you ever, ever leave me. Angel, baby. En fait, tu vois là, c'est ce que je vous disais. Là, on passait Mr. Tambourine, donc par Stevie Wonder, la reprise. Bon bah, pardon, mais elle est encore moins bonne que celle des Américains là, qui chantaient. Parce qu'en fait, l'original, elle est de Bob Dylan, mais elle est quasi inconnue, quoi. Tellement déjà, il y avait, comment il s'appelait comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Le groupe américain, les Birds, ils avaient repris ça déjà, Mr. Tambourine, et c'est passé tellement que moi je pensais que c'était un morceau de eux, quoi. Comme Jimi Hendrix qui reprend... Bah non, c'est pas vrai. Mais je trouve la version de Dylan bien mieux. Et la version de Jimi Hendrix, de All Along the Watchtower, c'est de Bob Dylan aussi. Mais la version d'Hendrix, par contre, je la trouve meilleure. Bah, enfin, meilleure, non. Les deux sont bonnes. Mais je trouve qu'elle est... Moi, je l'ai découverte par Hendrix, quoi. Et je la trouve tellement... Waouh, elle est tellement... Waouh, excellente aussi, quoi. Ouais, elle est forte, quoi, celle d'Hendrix. D'ailleurs, lui, il y en a qui sont plus forts pour les interprétations que d'autres. Hendrix, lui, comme il faisait un peu ce qu'il voulait avec sa guitare, quoi, c'est aussi... Mais bon, on n'est pas là... Enfin, si, on est là pour parler de ça, mais c'est l'écoute de l'interprète. Jimi Hendrix, par exemple, l'écoute qu'il faisait de All Along the Watchtower, il rajoutait quelque chose d'énorme, quoi. Tu vois? Il rajoutait sa sauce à lui, son interprétation. Alors que lui, son interprétation à Stevie Wonder, de Mr. Tambourine ou encore des Birds, bah, ça vaut peanuts, quoi. Là par contre, 16 Tones, c'est un classique country. J'ai un morceau des Platters aussi qui reprennent 16 Tones, c'est de Merle Davis. Je l'ai par lui, en tout cas au plus vieux. Mais bon, il n'y a pas grand chose de nouveau. Et la version country de Merle Travis, waouh! 16 Tones, elle est excellente. Hein. 16 Tones, oh, elle est vraiment géniale. Et puis celle des Platters, elle est pas mal aussi. Enfin bon. Voilà. Donc si... Alors, c'est mon café. Là. Si maintenant, on revient au... On revient à quoi? Tu dis quoi? À l'anthologie. Alors, le musicien n'est point, comme le géographe, astreint à donner la carte détaillée des lieux qu'il a parcourus. Il use encore plus largement que le poète du droit de s'engager à droite et à gauche dans 1000 digressions. Il faut donc laisser à l'auditeur le privilège d'interpréter à sa manière la pensée du musicien ou du poète. Ça, c'est certain. Même si... Ouais, complètement. Tu vas pas forcer une personne... Enfin, si, tu peux, mais c'est pas bien. On va pas forcer une personne à aimer un style de musique qu'il trouve... qui veut lui sortir par les trous de nez. Bah non, on va pas l'aimer... C'est pas être possible, en fait. Donc... C'est ça qui veut dire aussi. Enfin, dans, chaque auditeur a, va pouvoir écouter tous les genres de musique, mais certains genres de musique vont lui permettre d'aller voir encore plus loin, d'aller dans des digressions, tu vois, d'aller se pencher plus sur un style musical pour aller, parce que ce style musical va l'emmener ailleurs. Et ça, c'est différent pour chacun des habitants de la planète Terre. You know, baby love, yes, thank you, I know, we are on earth, you know, yes, 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 it's good. Et donc, il se peut que je sois demeuré à côté de la vérité et que je sois allé au-delà, est-il écrit aussi. Je conclus de là qu'il ne sera pas indispensable d'avoir entendu les quatuors de Beethoven pour s'approprier les idées et le sentiment que nous avons cherché à reproduire dans les tableaux qui font l'objet de cet ouvrage. Il suffira de se rappeler quelques-unes des sensations musicales qu'on aura éprouvées vivement dans telle ou telle circonstance. Et ça, c'est de Cyprien Desmarais, les 18 poèmes de Beethoven, essai sur le romantisme musical 1839. Je trouve ça fort que le musicien n'est point comme le géographe astreint à donner la carte détaillée des lieux qu'il a parcourus. Mais la lecture aussi, ça peut être par rapport à ça. Tu vas aimer un livre plus qu'un autre, un style de littérature plus qu'une autre, parce que ça t'emmène, ça te déporte, ça te permet de faire des digressions, d'imaginer. Et comme cet exemple j'ai déjà donné, Flaubert, Madame Bovary. Je n'ai rien compris, mais j'ai tout lu. J'ai été du début à la fin, waouh, j'étais dans un rêve, dans un amour fou, impossible même, qui d'ailleurs restait impossible. C'était un truc, j'ai rêvé du début à la fin, quoi. C'était somptueux, c'était écrit d'une façon, donc chaque temps, chaque événement, phénomène, là, plutôt concernant la musique, enfin, on ne peut pas décider, mais il faut être assez ouvert d'esprit, comme pourrait le suggérer Nietzsche, pour justement prendre la peine d'écouter et prendre la peine d'essayer d'ouvrir ses oreilles à autre chose que ce qui peut passer sur les radios commerciales. Hop, j'ai rien dit, c'est fini, on continue. On va chercher un morceau de musique. Allez, on y va ensemble ? Allez, ça vous fait plaisir, hein ? Bon, allez. Donc là, on écoutait la phase B de Down to Earth par Stevie Wonder. You know. Stevie Wonder, il y a un album que j'adore de lui. Pas son plus connu, je l'avais, mais je l'ai plus. Mais c'est vrai qu'en fait, il est pas mal, je l'ai réécouté, mais c'est pas celui-là. Je ne vais pas vous le passer, hein, mais un album de lui que j'aime bien, c'est Music of My Mind. Ouais. Il commence ouais, j'adore le truc. Ouais, mais je veux dire, j'adore. Ah, ouais, j'adore. Et donc, j'adore. Je vous parlais de Kimbo. Ah, ouais, pas ouais. Bah, là, ouais. Ok, si tu veux. Allez, on vit qu'une fois et pas deux. Fat Possum Records, Not the Same Old Blue Scrap. Et le dernier que j'ai eu, c'est le 3. Les deux autres, je vous les ai passés beaucoup. Je les ai beaucoup écoutés. Mais celui-là, peut-être un petit peu, forcément un peu moins. Très très bon. Très très bon. Oh, blues des années 2000. Donc. Alors, ensuite, on est au 19e siècle, théorie de l'écoute. S'intéressant à la musique de Wagner, il souhaite reconsidérer l'histoire musicale à la lumière d'une théorie musicale d'elle-même fondée sur le fonctionnement du son. Il expose ce projet dans l'introduction de son ouvrage. Alors, c'est Hermann von Helmholtz. Celui-ci comprend l'étude de l'anatomie de l'oreille et des sensations sonores. Terme repris à Johannes Müller, lesquels naissent de l'interaction entre la structure anatomique et la structure du son. En fait, tout ça, il y a des études qui ont été faites sur la structure des outils de l'oreille à l'intérieur de toute l'anatomie avec la musique. Ce qui entraînerait certes, les goûts peut-être aussi. Ah ouais, et ça c'était sympa. Ah ouais, ça c'était marrant. Que signifie être musicien? Dans une toujours dans les théories de l'écoute au 19e siècle, page 1065, l'auteur anglais Charles Lamb, 1775-1834, se décrivait dans l'un de ses essais comme anti-musical. Je cite: je n'ai pas d'oreille, si je dis cela, vous comprendrez que je veux dire pour la musique. Je n'ai pas d'oreille pour la musique. Oui, on avait compris. Ouais. Lamb se dit, L-A-M-B, se dit sensible aux sonorités de la nature et aux chansons, mais réfractaire au solfège, à toute théorie. Son texte n'est pas d'ordre scientifique, c'est un caprice. Alors que ceux d'Albert Clair, C-L-E-R, et de Theodor Billroth, B-I-L-R-O-T-H, se rapprochent davantage de l'observation de K. D'accord. Ouais, j'avais écrit ça parce qu'il était anti-musical. Parce que juste, il n'était pas en accord avec la... Ben, ouais, ça m'arrive d'être d'accord avec ça, même si j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais... Ben, que la musique, ça, c'est dans l'instant, quoi. C'est par rapport aux interprétations qu'on voyait tout à l'heure, quoi, dont on parlait. Tu peux reprendre une musique, faut que ça se fasse comme ça. Tu vois tous les grands, là, les grands musiciens qui reprennent les classiques qui ont déjà été, bah, Beethoven par exemple. Beethoven, il y a des super interprétations de Beethoven, mais ouais, c'est con. Bon, chacun y voit. Donc oui, c'est anti-musical. Je n'ai pas d'oreille musicale. Et maintenant, on arrive à l'amalgame des sons. Et là, je trouve ça chouette parce que on vient parler du concept que je développe avec Helmut Schwarz en T-pop. Alors, là, j'ai annoté amalgame de sons. Pour produire un rapport entre stimulus et sensations produites, la musique opère par un facteur associatif. D'ailleurs, avez-vous fait attention à ce dernier signe? Alors que je vous parlais de reprise et d'interprétation. Et je vous ai dit, bon, maintenant, on va écouter un disque que j'ai encore jamais écouté, la face B de Down to Earth par Stevie Wonder. Et là, qu'est-ce qu'on entend? On entend des reprises. Alors, la playlist, moi, je l'avais lue, mais je ne m'en rappelais pas. Tu vois? Putain, ouais, ça tombait bien. D'où la force métaphysique installée. Qui est là, qui est présente, et qui là, qui agit. Alors, je pense aussi que cette force métaphysique, on ne peut pas compter dessus. On ne peut pas se dire, faire un truc volontairement, en se disant, de toute façon, il y a le côté, la force métaphysique qui va agir de mon côté. Forcément, quoi que je fasse, je veux bien m'en sortir. Non, ça c'est faux. J'ai un exemple. Vous savez, quand Jeff Buckley, le fils de Tim Buckley, qui chante vachement, pour ceux qui connaissent, hein, tout le monde ne le connaît pas, mais il est assez connu quand même. Il chante l'album Grace, des années 90. Okay. Et là, il a un jour, il se dit, tiens, je vais traverser le Mississippi à la nage. Alors déjà, bah, ouais, pourquoi pas, faut le faire. Et bon, apparemment, au Mississippi, il y a des contre-courants, c'est quand même assez long. Hein. Mais bon, allez, j'y vais. Et avec les courants, il s'est noyé. Donc c'était ça. Lui, il s'est dit, oh, allez, il peut rien m'arriver à moi. Je suis Jeff Buckley, je chante vachement bien. Mojo Pin, c'est un morceau de l'album. Je chante génial. Il peut rien m'arriver. Sauf que, et mais après, il prenait des drogues aussi. Lui. Il prenait beaucoup d'héros, comme son père. Et donc là, bah, il est mort. Mais donc ça, c'est un exemple pour vous dire que si tu comptes dessus, sur la force métaphysique, bah, elle va se barrer. Et j'ai un second truc, un second exemple. Là, dans la barge russe précédente, la 1229, celle d'hier, l'arrêt de mort, à un moment, je vous dis, depuis quand êtes-vous là? Depuis quand j'étais là? Et après, dans la voiture, c'était le lendemain de l'enregistrement à l'époque, j'emmène mes enfants à l'école, et là, quelques heures, enfin, même pas quelques heures, mais bon, bref, pendant là, je les emmène, j'écoute l'album de Johnny Winter, End, parce qu'il y a Rock'n'Roll Uchiku que je voulais réécouter, qui est absolument génial, et donc j'écoute... Hein, et puis à un moment, bah, je prends le disque, je suis rendu à la numéro 5 ou 6, et je regarde le nom du morceau. Vous savez ce que c'était ? Am I here ? Suis-je ici ? Non mais... je me dis, mais attends, je suis où en fait ? Là, c'est plutôt... Je vous demande, mais où est-ce que je suis, quoi ? Des trucs comme ça, bon, c'est sûr, ça peut passer pour un guignol, mais à mes yeux, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose, quoi. C'est pas, si ça arrive, bon, c'est vrai que ça représente rien, ça fait rien, mais moi, de mon côté, à moi, personnellement, je sens que je suis sur le bon chemin, en tout cas, dans la bonne direction. Pourquoi, je ne sais pas, même pour ce que j'ai à faire, en tout cas. Voilà, c'est ça l'exemple que je voulais vous donner. Donc, nous allons continuer les écoutes, parce que le nom de l'émission, c'est quoi? C'est l'écoute, Barge Russe, 12h30, je crois, maintenant. Alors, on s'est quitté juste avant sur un morceau de la compil Fat Possum 3, Had Been Good To You, par Charles Caldwell. Et maintenant, on va passer... On passe à Aventure 3 Gargamel, face B. Yo, c'est chaud sur la piste, ouais. Donc je vais continuer où j'en étais. J'en étais, vous savez, à l'amalgame des sons. Et là, je vous parlais, c'était le moment de parler d'antépop, qui sont un amalgame de sons, et là-dessus, tu joues des riffs, c'est le concept en T-pop. Donc, la psychologie de la musique musicale au 19e siècle étudie l'effet des sons et ou de la musique sur l'âme, ou du cerveau. Sa façon de les décoder, sa façon d'assembler des éléments premiers, différemment nommé. Sensation, par exemple. En représentation ou sentiment situé à un niveau plus élevé. À ces éléments premiers peuvent s'associer ou non des éléments ou images déjà stockés dans la mémoire. L'effet, la musique peut faire ça. L'effet en soi de ce type d'élément peut concurrencer, dévier ou rehausser l'effet des éléments proprement musicaux. ceux employés par le compositeur. Alors, Gustav Theodor Fechner est l'un des fondateurs de la psychologie qui vise à mesurer le rapport entre stimulus et sensations produites. C'est-à-dire que pour le compositeur, ça va pas être, comme je vous disais tout à l'heure, ça va pas être volontaire, quoi. Il va pas se dire. Il va y avoir tout un truc, en tout cas au niveau des outils de l'oreille, qui va être appelé à une redondance, une répétition qui doit s'exercer afin que le morceau reste musical. La psychologie expérimentale. Au sujet de la musique, Fechner distingue en particulier le facteur associatif et le facteur direct qui opèrent dans l'impression musicale. L'association de morceaux, qu'on peut voir dans T-pop, par exemple, faudrait qu'on passe un morceau dans T-pop. Ce serait pas mal. On verra tout à l'heure. Il n'y en a pas de récent, ça fait encore qu'on en a pas fait, mais bon. Quand même, ça fait longtemps, ça fait quoi, un mois peut-être, à peine, ouais. Bon, ce qu'on nomme ici les étapes psychologiques de la musique coïncident pour partie, ou les rappelle d'une façon ou d'une autre, avec des étapes psychologiques, qui peuvent également exister en nous sous l'effet d'une quelconque musique. Un état joyeux ou sérieux, la tristesse même, l'agitation ou l'apaisement, la force ou la clémence, le sublime, la douceur aimable, le flux plus ou moins léger et l'émotion intérieure. Appelons de telles étapes psychologiques, à défaut d'un autre terme, les états musicaux apparentés à la vie. Si l'on n'épuise aucunement par là les étapes psychologiques de la musique. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la société. La société, et pour chaque membre de la société, on a un style de musique. Et après, ce qui passe dans les stations commerciales, c'est quoi? On y met l'adjectif qu'on veut. Mais c'est le reflet de la société de masse, à mes yeux. Parce que si cette musique... la musique qui passe dans les trucs commerciaux, dans les stations commerciales, c'est les trucs qui se vendent, qui s'écoutent. Ce midi-là, je vais chercher mes enfants à l'école, en vélo, enfin ma fille. Et là, j'attends, et je pars avec mon chien, je le mets dans le vélo cargo, et je le laisse dedans. Et puis et là il y a trois jeunes qui se pointent, qui passent devant, deux mecs et une fille. Bon, les mecs ils avancent et puis la fille elle voit le chien en vélo. Ah, c'est mignon, un petit chien en vélo. Ouais, bon, après il n'y a rien de particulier, hein, c'est un petit chien, d'accord. Et là il dit, ouais, tu viens? Ah non, faut trop que je le prenne en photo. Attends, c'est pas possible, on est dans quelle société nous sommes? Prendre la photo d'un chien prisonnier dans un vélo cargo. Quel intérêt? Je sais pas. Je me suis juste dit, quelle société de merde. Voilà. Continuons. Ils sont néanmoins d'une importance capitale, puisqu'ils constituent l'un des moyens qu'a la musique d'entrer en relation avec d'autres arts ou avec la vie extérieure. Les étapes psychologiques de musique. Ils sont néanmoins d'une importance capitale puisqu'ils constituent l'un des moyens qu'a la musique d'entrer en relation avec d'autres arts ou avec la vie extérieure. Ce que la musique peut nous faire ressentir, ça peut être... C'est essentiel dans nos relations. On pourrait donc formuler à propos de ces états apparentés à la vie, le principe suivant. Les déterminations et les rapports de la musique qui font naître un tel état se rencontrent sur leur point essentiel avec la forme active que prend l'expression de cet état dans la voix et dans les mouvements de l'homme. dans la mesure où cela est possible selon la constitution pardon, différente des instruments de musique ou de l'organisation du corps humain. Une musique joyeuse suit un autre tempo et un autre rythme qu'une musique tragique. Oui, voilà, ça, on sait. Il y a une différence lorsque l'on exprime l'allégresse et la tristesse. Il n'est aucunement nécessaire de supposer que pour être mis dans tel état par la musique, tel ou tel état, nous devrions nous souvenir au préalable. Ouais, bon, d'accord. Donc en fait, tout ce passage, après j'ai noté, en fait, c'est des contacts au côté invisible par la musique. Tu vois, les états dans lesquels on peut se ressentir, les états qu'on peut ressentir en écoutant telle ou telle musique. Une musique ne va pas le plonger forcément dans un désarroi ou dans une bonne humeur. Quoique, des fois, tu écoutes un bon funk, ça peut te propulser, mais tu dois être bien déjà avant, quoi. C'est comme quand tu prends des acides. Enfin, tu peux pas prendre du LSD, enfin tu peux prendre du LSD si t'es pas bien dans ta peau, mais bon, le résultat va être catastrophique, quoi. Ou des tazes, faut mieux être en bonne santé mentale quand on en prendre, quoi. Alors, il existe divers types de sentiments qui, par rapport à ces états musicaux, apparentés à la vie que la musique peut éveiller ou entretenir, et dont le caractère reste encore très général du fait qu'ils peuvent entrer dans différentes séries de représentations. Il en va autrement des états dont le caractère est plus général. Nous n'avons en effet besoin d'aucune association pour qu'une musique douce nous rende doux, qu'une musique vive nous entraîne ou que sa tristesse nous rende triste. Une mélodie joyeuse ne cadre pas avec un lead triste, ni l'inverse. Or, dans la mesure où les associations représentées peuvent elles-mêmes avoir tel caractère ou tel autre, leur apparition sera en effet favorisée par l'état correspondant qui oriente ensuite l'écoute de telle ou telle musique. Leur apparition sera en effet caractérisée. Ce n'est donc pas l'association qui suscite l'état psychologique. Ouais. C'est sûr. Mais il faut être dans un... Ouais, bref. On ne saurait de façon générale déterminer avec précision si une musique qui a tel ou tel caractère psychologique supporte les séries d'associations compatibles avec cet état. Oh bah dis donc. Ce qui peut de toute manière dépendre la condition secondaire d'ordre subjectif ou objectif. Par ailleurs, la sensibilité du musicien à l'impression que produisent certains éléments musicaux ne va pas se développer et se raffiner, parce qu'il en tire progressivement de plus en plus d'associations. C'est au contraire parce qu'il s'immerge de plus en plus dans le domaine des relations sonores elles-mêmes qu'il apprend à saisir leurs rapports de plus en plus complexes. Ces relations sonores restent cependant l'affaire d'une impression directe. Et là, antépop, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un amalgame de sons, donc des morceaux. Tu peux en accumuler plusieurs, bon, pas trop parce que sinon ça devient une cacophonie, mais bon, plus t'en mets, plus la cacophonie qui en ressort, c'est aussi la société, hein. C'est vraiment le reflet de la société, le concept anti-pop. Et attends, comment ça se termine déjà? Ouais, voilà. Et donc il y a une espèce de schizophrénie non clinique, hein, qui va se refléter dans le concept. Et en live, y a vraiment une impression qui en ressort directement. Généralement, quand on jouait ça en live, c'était une... tout le monde ne restait pas, hein, bien sûr. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a qui s'appelaient, d'autres qui ne s'appelaient pas. Toutes les musiques. Mais il y en a qui étaient émerveillés. Bon, c'est peut-être un peu lourd comme mot, émerveillés. Mais qui étaient... Qui adoraient, quoi. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais il y en avait. Donc ça faisait toujours très plaisir. Mais c'est jamais... Antépop, C'est les impressions des intentions de la musique moderne. Don't move. J'ai d'autres trucs qui sont très bons là. Tiens, voilà, on va finir par ça. Soft machine out bloody rages. C'est la quatrième face et on va continuer. Alors, Max Nordau se livre dans Dégénérescence. Alors, Dégénérescence, je sais quelle année, je sais pas, bon, c'est un livre du 19e siècle, à une critique de la civilisation fin de siècle en combinant approche sociologique et psychologique. Très intéressant. L'homme moderne ou dégénéré souffre en particulier d'un dérèglement de l'attention et d'une incapacité à synthétiser les sensations pures et les associations qu'elles éveillent. Il trouve son plaisir dans l'éparpillement, dans le zapping, l'homme moderne. C'est son plaisir. Il aime bien zapper. Il n'arrive pas à se concentrer. Suivant Willem Wundt, Nordau pose que la cellule cérébrale est frappée par un afflux de sang produisant une sensation ou impression. Cette excitation qui frappe une cellule cérébrale donne lieu à une propagation aux cellules voisines, à une onde excitatrice qui, se répandant dans tous les sens, produit 1000 apperceptions. L'homme sain, mobilisant son attention, sait éliminer ses connotations et représentations adjacentes. Éliminer, mais qui sont présentes. La civilisation, la suprématie sur les forces de la nature sont uniquement le résultat de l'attention. Toutes les erreurs, toutes les superstitions, des suites de son absence, pour Nordau, l'homme moderne ne serait plus capable de fournir cet effort. Sa figure emblématique est l'hystérique, un épuisé, absolument de volonté. L'art moderne nourrit et sollicite ce nervosisme et ce chatoiement d'associations, ce dont témoigne en particulier Wagner. La puissante action de Wagner sur ses contemporains s'explique par les particularités de la vie nerveuse du temps présent. La modernité a emmené ou représente, peut être définie par une nervosité qui ne peut plus s'accrocher à un fait, à quelque chose qui se passe, mais doit forcément aller voir plus loin. D'où une présence schizophrénique latente et peut-être même et non clinique pour la plupart des gens. Qui ronge la société et qui donc ces mots dont je vous emploie sont utilisés par la médecine et qui bannit le reste, mais qui peut bien sûr être à mes yeux aussi autant définir la modernité, quoi, tu vois, que par le truc nervosisme. L'activité cérébrale des dégénérés et des hystériques, non surveillée ni guidée par l'attention, est capricieuse, dépourvue de plans et de buts. Les représentations sont appelées à la conscience par le jeu d'associations d'idées illimitées et peuvent s'y donner libre carrière. Elles s'allument et s'éteignent automatiquement, et la volonté n'intervient pas pour les renforcer ou les supprimer. Côte à côte apparaissent les représentations qui sont étrangères les unes aux autres ou s'excluent mutuellement. La conscience obtient une image vague et défigurée du monde extérieur. C'est bien ça. La conscience obtient une image vague et défigurée du monde extérieur. C'est totalement juste. Mais il y a une seconde conséquence. Le discours chaotique des excitations le long des voies de l'association d'idées et du voisinage anatomique éveille l'activité du groupe cellulaire proche, plus éloigné et très éloigné, qui reste abandonné à eux-mêmes et ne travaille qu'aussi longtemps, aussi vigoureusement ou faiblement que cela répond au degré d'intensité de l'excitation qui les a frappés. Donc là, depuis le 19e siècle, l'homme s'aperçoit, comme disait Foucault, se rend compte de son existence en tant qu'être humain, comme, et à partir de là, il est affublé, il est envahi de questions, de ou pas questions, mais de comportements qui se voient, mais en fait, je peux contrôler mes comportements. Je peux contrôler mes comportements, et là, à cette époque-là, la consommation et le conditionnement ne sont pas encore totalement développés comme ça l'est aujourd'hui. Mais donc, il y a eu le 19e, c'est là que ça s'est créé, c'est que c'est la prise en conscience de que nous, êtres humains, on est capable de gérer, de contrôler nos comportements. Et donc là, la musique s'envoie toucher de plein fouet aussi. C'est au 19e siècle qu'arrivent les musiques polysymphoniques, les musiques... tu sais, c'est fini, quoi. Enfin, fini. Beethoven, déjà, il commence à faire ses quatuors. Putain, et écoutez les quatuors de Beethoven. Ouais. Non, mais là, ils sont mortels, hein. C'est pas Mozart, hein. Ben non, c'est les quatuors de Beethoven. C'est vraiment... Même Beethoven. Bon, déjà, Beethoven, il y a un petit truc. Mais les quatuors de Beethoven qu'il a fait à la fin de sa vie. Alors, je crois que c'est... je sais plus, c'est à la fin du 17e ou fin du 18e. Ouais, je sais plus. Bon, en tout cas... attends, je vais regarder quand même. Ah ouais, j'ai Internet devant moi. Attends. J'ai... Quatuor... de Beethoven. Il est mort en 1827, donc c'est plutôt début 19e. Mais donc on est en plein dedans, quoi. Tu vois, c'est fort. Et ouais, bon, c'est bon, tu l'as déjà dit 3-4 fois déjà. Faut que tu te calmes un petit peu. Et ben, je vais arrêter de le dire. Alors, l'activité cérébrale dégénérée et des hystériques non surveillées. J'ai déjà lu ça. L'activité cérébrale des dégénérés et des hystériques, non surveillée ni guidée par l'attention, est capricieuse, dépourvue de plans et de buts. Les représentations sont appelées à la conscience par le jeu d'associations d'idées illimitées et peuvent s'y donner libre carrière. J'ai déjà lu, mais je n'étais pas à ce que je lisais. Elles s'allument et s'éteignent automatiquement et la volonté n'intervient pas pour les renforcer ou les supprimer. Ok. La conscience obtient une image vague et défigurée du monde extérieur. Ça aussi, je viens de vous le dire. Les spectres d'idées surgissant ne sont pas capables d'exercer de l'influence sur la pensée parce que l'attention ou bien leur éclair vivement le visage, ou bien les rejette dans le souterrain de l'inconscient. Ben ça, vraiment, là, il reprend Platon, quoi. Les spectres d'idées surgissant d'exercer l'influence. Ben ouais. Parce que l'attention... Ouais. Ouais, c'est pas la musique. La musique va aider va peut-être aider à prendre une direction, mais elle va accompagner, quoi, plutôt. Plutôt que aider à te dire, il faut que t'ailles par là, quoi. Alors, il en est de la même mélodie infinie, comme je vous parlais hier, le second précepte de Wagner, comme du leitmotiv, elle est un produit de la pensée dégénérée. Son absence amène le radotage de toutes les perceptions. Voilà. Bon, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai sur ce livre plus tard. Je vous dis, il fait plus de 1000 pages. Ça s'appelle De l'Antiquité au 19e siècle, une anthologie sur l'écoute, édition MF, édition de Philharmonie. Et tout ça, bien, c'est pour. On est tous à la fois dépendants de la musique, parce que c'est elle qui accompagne nos choix, mais c'est pas elle qui prend nos choix, quoi. C'est pas. Et pourtant, elle est le reflet de la société. Ouais, c'est vraiment. Elle nous accompagne, c'est notre reflet. C'est plus ou moins nous, quoi. Même si elle n'a aucun pouvoir de décision, quoi.
Cette femme, bien sûr, sans surprise, elle envoie tout l'amour qu'elle a. La radio associative, elle est là pour que tu montes le son. Elle monte choix anime des chroniques, et Johnny sème la panique. J'ai accepté pour prendre le 3 con. Le conditionnement de contrôler la consommation. Elle considère comme conforme la liberté qui se soupçonne.